Et les bords, minuit.
De l'eau sur Mars.
De l'eau sur Mars, sur Et les bords, la nuit à partir de minuit, le secret.
Sur Et les bords.
Thank you. say to me? What can I say? They know my name. No reason to complain. Even if all is burning, what can I say? They know my name. No reason to complain. Even if all is burning, what can I say? They know my
Je regarde Suzanne dormir. Je me demande, si je la tue maintenant, est-ce que je m'en sortirais ? Suzanne a déjà l'air d'une morte. Quand elle dort, on dirait un cadavre. Elle a aussi une odeur de cadavre. Peut-être qu'elle me remercierait. Je m'aperçois que si je pouvais simplement faire disparaître Suzanne, sans risque, je le ferais sur le champ. on en revient toujours à la drogue. En tant que femme, Suzanne est utile sur certains points. Je sais qu'elle est capable de persuader RJ de lui faire crédit dans certaines circonstances où il me serait impossible d'y parvenir. Parce qu'elle peut sembler pitoyable, blessée, avoir besoin d'aide. C'est la façon d'être de Suzanne. La seule carte qu'elle puisse jouer. Mais ça marche. Il y a eu des moments où il n'y avait pas d'argent pour acheter de la dope. Aucun moyen de s'en procurer. Et Suzanne nous a tiré d'affaire. C'était rare, mais c'était néanmoins arrivé. Mais que va devenir ma relation avec Suzanne à long terme ? L'héroïne est cruelle avec les femmes, davantage qu'avec les hommes, je crois. Les types qui scament acquièrent une certaine allure, un aspect sous-alimenté des joues et de la ligne de la mâchoire. Mais les femmes paraissent simplement plus laides, hagardes, méchantes. Au bout du compte, il n'y a pas de belle camée. Même Nico, cette malheureuse et belle Nico, avait usé son visage jusqu'à la corde à la fin. Et elle était partie d'une beauté à couper le souffle. Suzanne n'avait pas la moindre chance. Je suis lâche. Je n'ai pas le courage de tuer Suzanne. En fait, je me laisse aller à ce fantasme parce qu'elle dort et que je suis réveillée. Thank you.
shopping for jazz. If the big girls don't mind, to clap or just snap my fingers, I'm trying to decide. The world keeps pushing, gotta flow on its own. Riding the tide of last night, never alone. The falling notes are landslide. Picture perfect love is nowhere. I was silent, you were
Le château baigné de lumière s'éloigne de plus en plus à travers les nuages de poussière soulevés par la voiture. Le sombre parc se rapetisse, le paysage s'estompe. Finalement, le cadre de son amour disparaît à ses yeux et n'est plus qu'un rappel oppressant. Une heure plus tard, la voiture le dépose à la gare. Le lendemain, il est à Londres. Plusieurs années ont passé. Bob est devenu un homme. Mais cette première aventure est restée trop vivante en lui pour qu'elle puisse un jour se ternir. Margot et Elizabeth se sont mariées. Il n'a jamais voulu les revoir. La pensée de ces heures troublantes s'est souvent emparée de lui avec une telle violence que sa vie ultérieure ne lui est plus apparue que comme un rêve, une illusion, comparée à la réalité du souvenir. Il est un de ces hommes qui ne peuvent plus trouver d'attrait à l'amour ni aux femmes. Lui qui, à une heure de sa vie, avait réuni si parfaitement ses deux sentiments, aimer et être aimé, aucun désir ne l'a plus jamais poussé à rechercher ce qui était si précocement tombé dans ses mains tremblantes et débiles de jeune adolescent. Il a parcouru de nombreux pays. C'est un de ces Anglais corrects et silencieux que beaucoup croient insensibles parce qu'ils sont taciturnes et que leur regard reste froid devant le visage et le sourire d'une femme. Qui penserait en effet que ces images sur lesquelles ils ont les yeux constamment fixés, ils les portent en eux-mêmes, ensevelis au fond de leur cœur, qui brûlent pour elle d'une flamme éternelle, comme un cierge devant une madone.
Don't be sentimental, call me hateful and cold. I just don't love you no more. The truth is hard to handle, if it's gonna let it go.
Don't be sentimental, call me hateful and cold. I just don't love you no more.
Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais à Stanford, à l'époque, on n'aimait pas bien les étrangers. Quand je dis étrangers, je ne veux pas parler des habitants de pays autres que les États-Unis, comme le Canada ou le Mexique, et encore moins de ceux de la vieille et lointaine Europe que bon nombre de gens d'ici auraient été bien en peine de situer sur une carte. D'ailleurs, il faut bien le reconnaître, quel Suisse, Allemand ou Français, sans même évoquer d'autres peuples dont nous ignorions jusqu'au nom, seraient venus traîner leurs bottes à Stanford? Non, par étranger, j'entends des types de l'autre rive du Mississippi, sans même aller jusqu'à l'Iowa ou l'Illinois, des gars d'un autre comté, des gens pas comme nous, des gens d'ailleurs, des étrangers quoi. Jim Lamar, lui, était né ici, et ses parents avant lui, et les leurs, et sûrement que ça devait remonter à loin tout ça, peut-être à la fondation de la ville, bien loin. Jim Lamar est né ici, y avait grandi, y était allé à l'école, avait fréquenté l'église baptiste comme tous les gamins de Stanford, avait fait tout pareil que les autres enfants de son âge, de son temps. Comme eux, il avait chassé les grenouilles dans les marais, comme eux, il avait pêché le black bass et le blue catfish dans le Mississippi. Comme eux, il avait couru les filles et, comme une poignée d'entre eux, il avait été enrôlé en 68, à 20 ans, dans les forces de l'oncle Sam, pour aller combattre les diables rouges dans un coin du monde dont il ne soupçonnait pas même l'existence quelques mois plus tôt. Comme les autres, il y était parti, y avait fait son devoir. Au terme de leur engagement, les autres, du moins ceux qui avaient survécu, étaient rentrés au pays. Pas Jim. Des mois durant, ses parents avaient guetté un signe, une lettre annonçant son retour. Le dernier gars d'ici à l'avoir rencontré était Buck Wayland. Cela remontait à juillet 1968. Quelque part au nord de Saïgon, dans une plantation de caoutchouc où la division d'infanterie de Buck et le régiment de marine de Jim s'étaient retrouvés par hasard au coude à coude dans cette antichambre de l'enfer. Extrait du roman de Lionel Salin, Le retour de Jim Lamar.
Thank you. this space. Bless this space.
Claude s'abandonnait aux vibrations qui pénétraient ses tympans et irriguaient son corps jusque dans ses plus lointains atomes. Le chant hypnotique du roi des aulnes lui purifiait l'esprit, le nettoyait de ses scories, lui donnait la pureté nouvelle d'un drap lavé à grande eau et blanchi au soleil. Son existence quotidienne s'évaporait, son être se fondait dans la musique de Schubert, son corps se transmuait, disparaissait dans la beauté des sons. Elle n'avait plus d'identité propre. Elle participait de la poésie, devenait tout entière poésie. Elle renaissait. Le bienheureux oubli d'elle-même dura plusieurs minutes, qui furent comme un siècle de beauté. Et puis, insidieusement, provoqué peut-être par un craquement du disque sur la platine, ou par quelque bruit de voisinage, ou bien fruit d'un implacable automatisme intérieur, la rumination reprit possession de son esprit. Il y eut une première pensée, petite et basse, puis une autre, et une autre encore, devoir d'école, cours de piano, femme de ménage, et les papiers à remplir, et les choses à acheter, les décisions à prendre, la vie à organiser, et puis tout ce qu'il avait heurté, un gilet qui traînait sur un tabouret, un mot mal choisi, une rature sur un formulaire, formant un flot continu de peur et de rancune. Et la voix du chanteur fut recouverte par le grincement des reproches et des auto-reproches. Le grondement des regrets remâchés, le tic-tac des griffes égrenées. Claude alla soulever le bras de la platine pour arrêter le disque. À quoi bon ? Même un lied de Schubert ne pouvait la libérer de ses démons. Extrait du roman de Vanessa Gau, Une famille nucléaire. De l'eau sur Mars, sur et les bords. We'll be right back.